Roland Minhart, c'est comme ça que l'on dit, à la forme flamande. Vous êtes photographe, nous sommes chez vous. Et pourtant, vous n'êtes pas un inconnu en Suisse française, puisqu'à la deuxième triennale de Fribourg, en 1978, vous aviez non seulement exposé, mais on vous avait décerné un prix pour une expression tout à fait originale. Cette photographie avait du reste effarouché certains visiteurs, parce que il y avait plus que simplement de la photographie. Nous y reviendrons. Comment est-on arrivé à la photographie? Par un simple métier, normal, naturel?
Dans mon cas donc. Je fais un métier tout à fait différent avant. J'ai fait l'université, j'ai obtenu le diplôme de espèce de ingénieur, donc conducteur travaux publics, ça s'appelle en Belgique, donc c'est celui qui exécute les travaux sur le chantier. Mais ce qui m'intéresse surtout dans la vie, c'est le contact avec les gens. Et dans ce métier-là, j'avais pas la possibilité de rencontrer des gens intéressants, quand même pas au point où je voulais. Alors comme la photo était mon hobby, petit à petit, je me suis fait mon métier. Et c'est ce métier-là qui m'a permis de rencontrer des tas de gens intéressants et de faire des choses intéressantes, d'aller dans des pays... ça m'a paru un métier qui présentait toutes les possibilités pour moi que j'espérais dans la vie.
Donc d'un métier, on est passé à un autre métier, et de ce métier, on a fait un moyen d'expression, peu à peu.
Oui, ça n'a pas été tout seul, comme je suis un self-made man, autodidacte en français. Ça m'a pris plusieurs années de me perfectionner, si j'ose ainsi dire, et ça a été une école dure, mais je crois une très bonne école. J'ai fait tous les essais, toutes les expériences possibles, et petit à petit j'ai senti que c'était un moyen sûr pour moi de m'exprimer, de dire ce que j'avais envie de dire dans le domaine artistique, disons. Comme par exemple un peintre utilise ses pinceaux, un autre utilise sa plume pour écrire, un troisième sculpteur utilise autre chose encore pour faire sa sculpture. Et moi je trouve que la photo c'est un moyen technique pour pouvoir s'exprimer. Alors à travers la photo j'essaye de m'exprimer, de parler de la vie, de ce que je ressens.
Parce qu'en fait, au-delà de l'image... Parce que pour beaucoup de gens, la photographie, c'est la reproduction du réel. Oui. Au-delà de l'image, il y a autre chose.
Oui, oui. J'aime pas tellement la photo pour la photo. J'ai horreur d'ailleurs les gens, par exemple, qui font un but de la langue, rien que pour la langue. Je trouve que la langue, c'est un moyen de communication. Et pour la photo, c'est la même chose. Pour moi, la photo, c'est pas le but, c'est un moyen. Donc, avec ce moyen-là, je peux m'exprimer comme je veux et dire, essayer de dire ce que je ressens.
Toujours par rapport au monde.
Oui.
Et quand on dit que derrière l'image, il y a autre chose, on en arrive tout de suite à une définition de l'art fantastique. Et l'on peut dire qu'il y a dans votre photographie très souvent des volonté d'expression fantastique, même dans l'esprit flamand.
Oui, parce que ce que je veux exprimer est naturellement être imbibé de mes fantasmes, de mes besoins aussi bien spirituels que érotiques, et je crois que ça se voit dans mes images, et je veux aussi le montrer à travers mes images. Je veux communiquer ces émotions et à travers l'image, donc.
Dans ce plat pays, il n'est pas si plat que cela, c'est plein de collines. Les collines sont elles-mêmes habitées de merveilleuses haies, avec de temps en temps un moulin au sommet, et puis d'extraordinaires personnages, le philosophe. Vous êtes particulièrement intégré là-dedans et vous vivez, vous vous nourrissez de l'endroit où vous vivez.
Oui, je crois que oui, très certainement, il reste en chacun de nous et surtout chez les artistes, il reste en nous quelque chose de Jérôme Bosch et de Bruegel aussi. Et ce côté flamand, fantastique, mystique aussi, si on, oui, il faut dire. Parce que le flamand n'aime pas seulement bien manger, bien boire, bien rire, bien vivre en général, mais il pense aussi très souvent, peut-être très sérieux, penser à la mort, aux relativités des choses, et en parler d'une manière assez mystique et vivre tout cela... d'un côté fantastique. Au Moyen-Âge, c'était plus prononcé, mais il reste toujours des vestiges de cette façon de vivre.
Est-ce qu'au Moyen-Âge, on se sentait plus libre dans ce pays ? On vient de me dire que c'était plus prononcé au Moyen-Âge.
Oui, je crois que le peuple vivait plus simplement et plus près de la vie, plus près de la nature, était plus influencé par les saisons, par exemple. Par l'Église aussi, qui avait un grand impact sur les gens et dont la vie intime se propageait en dehors de l'Église et sur le marché du village. Et c'était comme une grande fête tout au long de l'année où la religion était mêlée aux choses de la vie quotidienne, même à l'érotisme, si on regarde les détails dans les sculptures et les peintures religieuses même. Et les gens vivaient plus simple, mais plus intense, je crois, plus près de la vie, de la terre.
Est-ce que ça veut dire que on aurait perdu aujourd'hui non seulement cette simplicité, mais cette liaison, cette relation directe avec les choses, avec l'esprit qui souffle derrière les choses?
Je crois bien. Enfin, pas tout le monde. Et beaucoup de gens sont encore ouverts à l'esprit, à cet esprit-là, mais il s'agit de leur montrer. Je prends un exemple personnel. J'ai fait une série de photos macro à l'époque, de champignons, d'algues, de poivrons, des tas de choses, surtout des choses de champignons aussi, des tas de choses donc qui poussaient près du sol ou même enfouies à moitié dans le sol. Et quand on montrait cela aux gens, ils disaient « Oh, c'est merveilleux, c'est remarquable, mais ça, j'avais jamais remarqué ça. » C'était seulement le fait qu'ils n'avaient pas fait pas fait l'effort de regarder tout près, plus près, plus intensément, de toucher encore la terre, de vivre avec cette terre.
Alors, en somme, à vous entendre, la photographie peut être un moyen de prendre possession de cette nature, d'en être... prendre possession dans le sens de rentrer à l'intérieur des mystères.
Peut-être bien, oui. C'est un peu difficile.
Non, mais je veux dire par là que aller auprès des choses, c'est déjà commencer à les comprendre, et vous avez envie de les comprendre.
Oui, oui. Oui, parce qu'on s'approche de leur vie personnelle, même d'un champignon ou d'un poivron, disons, quand on l'ouvre, on perd sa chair, on coupe dans la chair, on voit l'intérieur, les cellules, on voit les petits grains qui sont là, tout ce qui promet la vie, et des fois la décadence aussi, l'annonce de la mort déjà, comme un poivron ou une pomme que j'ai un jour trouvé dans la cave à moitié pourrie, mais qui était merveilleux d'aspect, mais qui annonçait déjà la mort, ce côté mystérieux et mystique de la mort. Tout cela se retrouve dans ces petits objets.
Oui, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir dans ces choses les plus simples et les plus naturelles un reflet de votre vie.
Oui, et la relativité de toute chose, enfin.
Oui, je vois que on entraîne le photographe un peu loin. On viendra à ces images plus tard. Ce qui nous intéresse en Suisse, c'est peut-être de savoir un peu quelle est la situation du photographe, comment il se sent dans le milieu artistique et comment il se sent dans le pays, comment il peut vivre. dans le milieu artistique, les peintres, par exemple, vous acceptent?
Oui, en général, la photographie artistique, enfin le photographe artistique, disons, se sent peut-être mal à l'aise en Belgique, parce que il n'est pas accepté vraiment comme étant un artiste comme les autres. C'est encore un autre art, enfin qu'on comprend pas. En Europe, en général, en Amérique, c'est différent. Là, la photographie fait partie du patrimoine artistique. Et on a des galeries, des collectionneurs, des spécialistes de la photo. Et là, on est reconnu, on a le sentiment d'être, oui, que la photo est pleinement reconnue. Donc, mais en Belgique, non, c'est très dur de se prouver comme photographe. Chez les artistes, ça va mieux, parce que j'ai beaucoup d'artistes, d'amis artistes, donc, qui m'appellent pour faire des reproductions de tableaux, des photos de leurs sculptures, et qui en même temps, comme ce sont des amis, s'intéressent à mes photos, et qui me stimulent, qui sont enthousiastes devant ce que je fais. Donc, ce côté-là, il y a une réponse assez positive.
Mais il faut vivre.
Ah oui, voilà. Alors, il faut faire autre chose aussi. Je fais, par exemple, pas mal d'audiovisuel, donc des montages d'IA, des trucs publicitaires aussi.
Oui, mais alors, votre photographie, disons, personnelle, touche alors à votre âme, à votre cœur, à votre esprit, à votre vie. Mm-hmm. La photographie publicitaire, beaucoup moins. Même si vous devez vous engager physiquement et professionnellement.
Oui, oui, vraiment, oui. Mais j'essaie quand même d'y mettre quelque chose de très personnel à chaque fois. Même quand je fais des natures mortes de viande ou bientôt je dois faire des photos de cuisine. Donc j'y mettrai quand même une touche de moi-même. J'essaierai. Mais enfin, c'est pas gênant, je trouve. Ça m'embête pas trop de faire ce côté commercial. Il faut vivre. Tout le monde doit se faire ses concessions, je crois, dans la vie. Et j'ai le bonheur encore de pouvoir faire de belles choses à certains moments.
Oui, ce qui me plaît dans votre réponse, même dans une photographie publicitaire, je mets quelque chose de moi-même. Et cela, je crois, est utile à être dit. On s'imagine que ce n'est qu'un aspect purement mécanique, la photographie.
Non, parce qu'une fois de plus, l'appareil n'est qu'un moyen. Donc il faut prendre cette cuisine pour en revenir à la cuisine. Donc il faut faire une photo pour un dépliant, par exemple. Donc on a l'appareil, on a l'éclairage, mais alors intervient l'homme qui va mettre cet éclairage, qui va diriger le mannequin, s'il y en a un, et qui va décorer aussi des fois ou intervenir dans la décoration et qui va quand même marquer la photo de sa griffe. Si.
Oui, ce sera un Minart, ce ne sera pas autre chose.
Oui, il y a des photos qu'on reconnaît comme ça. Hein, alors on peut dire, voilà, ça c'est d'un tel ou d'un tel photographe.
Roland Minart, vous êtes né en 1939, vous êtes encore un jeune photographe. Vous vous sentez jeune, enthousiaste. Oui, ça se voit du reste chez vous, avec une espèce de fétichisme de l'objet. Il y a des objets étranges dans votre maison. On a l'impression que ces objets excitent votre imagination.
Peut-être bien, oui. Il faut peut-être mentionner que je suis cancer. Je suis de juillet, donc. Et il paraît que les cancers sont très attachés aux objets d'antan. Et aux objets fétichistes même.
Oui, parce que presque tous ces objets ont une signification symbolique. Enfin, oui, on peut les lire au deuxième degré.
Oui, ça, ils ont ce côté symbolique des fois, et d'autres fois, c'est des souvenirs aussi, de moments vécus, des moments intenses, des moments heureux, ou moins heureux des fois. Je vois là les cornes, des cornes d'une tête de taureau qui traîne là. Par exemple, ça c'est quand j'ai fait mon requiem, il me fallait une tête de taureau, Je l'ai suivi, ce taureau, jusqu'à l'abattoir pour avoir cette tête-là. Et ça a été toute une histoire, d'ailleurs. Mais il y avait derrière tout cela le fait que la femme qui a inspiré le Requiem était taureau, de signe taureau. Donc, chaque fois que je passe devant ces cornes de taureau, je pense à la tête, au Requiem, à cette femme. C'est tout un processus fantastique qui se déroule dans ma tête. En somme, c'est né lors d'une dépression sentimentale, disons. Et pour m'en sortir, pour m'en guérir, vraiment, je voulais faire quelque chose. Alors, j'ai conçu ce Requiem. Et toutes les images ont été conçues à l'avance. Donc, en une semaine, 10 jours peut-être, j'ai eu toutes les idées, et même plus ce qu'on voit dans le Requiem. Et j'ai tout marqué, l'endroit, les détails, les couleurs, les accessoires. Et après, j'ai travaillé pendant 1 an et demi à peu près, ou plus peut-être, à réaliser le tout. Parce que d'abord, je devais faire autre chose aussi, puis le processus était assez compliqué, je vais en parler tout de suite. Puis j'avais pas toujours l'envie, ou pas, j'étais pas dans l'atmosphère, enfin des tas de trucs. Donc pour en revenir au processus, donc c'est des photos couleurs qui ont été retravaillées à l'Alpha Contour, qui est un film d'équidensité, qui donne donc les contours pour les mêmes densités de gris dans un négatif. Et en travaillant là-dessus, je me suis fait des caches et des contre-négatifs, dont j'ai doublé le négatif couleur. J'ai fait une première exposition avec des repérages sur un margeur spécial. Et après, je faisais une deuxième ou des fois une troisième exposition où, pendant laquelle je mettais la partie graphique sur la photo. Et ça, de là vient l'aspect assez spécial et bizarre des fois de certaines photos.
Oui, on a l'impression parfois que ces photographies-là ont été passées au feu.
Oui, certains gens ont dit que ça donne l'air d'être solarisé. C'est pas du tout ça, c'est donc vraiment l'Alpha Contour. Mais ça m'a permis d'habiller, pour ainsi dire, certaines images, de les rendre moins crues, parce que comme j'étais dans un état extrêmement bouleversé, les images que j'ai conçues étaient des fois très crues pour celui qui n'était pas imbibé de mon état d'esprit. Et donc ce processus-là m'a permis d'adoucir un peu l'image et de rendre plus poétique aussi, je crois, et en même temps plus fantastique, je crois bien.
C'est de la photographie de guérison
pour ainsi dire, oui. Après, quand je me suis guéri et consolé, on se console toujours, disait le petit prince, n'est-ce pas, j'ai entamé un éloge, voilà, de l'amour entre l'homme et la femme, l'amour dans le sens le plus vaste et le plus complet, dans la conception androgyne. Et ce livre s'est appelé donc L'Androgyne.
C'est un vieux rêve de l'humanité, cela.
Oui, voilà, de retrouver cette unité parfaite. J'ai ici sous les yeux des extraits du dictionnaire des symboles où je lis que l'androgyne est la formule archaïque de la coexistence de tous les attributs, y compris les attributs sexuels, dans l'unité divine, ainsi que dans l'homme parfait, soit qu'il ait existé aux origines, soit qu'il doive le devenir dans le futur. Je crois que c'est là une bonne définition de l'androgyne.
Mais vous avez chez vous, ici, une autre définition de l'androgyne, c'est un objet des Indes.
Ah oui, le Yoni Lingam.
Ça veut dire quoi, Yoni et Lingam?
Yoni, c'est le sexe féminin, Lingam, c'est le sexe de l'homme, donc.
Oui, réunis.
Oui, qui sont réunis dans un objet symbolique sur lequel les hindous font des oblations et qui donne la force de vivre, qui est
qui arrive même au symbole de l'éternité.
Voilà, oui, et qui régénère la vie continuellement. Mais je crois que en amour, c'est comme ça que m'est venue l'idée de l'androgyne. Et que en amour, on a cette tendance de vouloir s'unir avec l'autre être aussi parfaitement que possible, aussi bien par le corps que par l'esprit. et ce vouloir de se pénétrer aussi intensément que possible. Et c'est à ce moment-là qu'on perd sa dualité, qu'on devient transcendant, comme on dit, et qu'on atteint cette forme d'androgynie qui est malheureusement pas, qui reste pas, malheureusement. Mais j'ai quand même voulu essayer de le matérialiser dans mes photos de l'androgyne.
Oui, alors venons-y. Nous prenons par exemple le début de ce portefeuille, de ce recueil, qui est techniquement, peut-être rapidement, disons que c'est en noir et blanc.
Oui, c'est donc des photos qui ont été tramées avec une trame sablée, qui ont été mises sur pierre après, et qui ont été imprimées par la voie de la photo litho, donc par la lithographie.
Est-ce que c'est un moyen d'atteindre des collectionneurs par cette façon de transfert lithographique?
Oui, je crois bien. C'est encore à ses débuts parce que les gens trouvent, les uns trouvent que c'est plus de la photo, les autres trouvent que c'est pas tout à fait la litho, donc je suis dans un domaine dangereux. Mais pour moi, c'est un moyen plus riche de m'exprimer parce que d'abord, je peux imprimer sur un papier riche. Déjà, dans ce cas-ci, le velin d'Arche. J'aime bien le toucher, j'aime bien cette richesse de ce papier. Et puis, sur la pierre est vivante, en plus. Et sur la pierre, on peut travailler, on peut ajouter la matière, on peut faire créer encore, et ajouter de l'impact à la photo. Par exemple, la photo qu'on a sous les yeux, donc c'est le début de l'androgyne.
Oui, c'est en somme le yogilingam hindou.
Voilà. Oui, on a donc on voit les deux sexes, le clitoris en très macro photo, et séparé du lingam, hein, par un fond noir. On est encore dans l'obscurité, le non-savoir. Et après,
Le non existant.
Le non existant, oui, la non-union, enfin tout ce qu'on veut. Après, on passe par le chaos primordial pour passer par les actes d'amour plus quotidiens qui sont imprimés en cri, qui restent dans des tons grisâtres, donc pour situer l'atmosphère, oui, imparfaite. Et après, on va vers des images plus claires, plus aéré, plus doré aussi, plus éclatant, pour situer l'approche de la perfection. Et à la fin, on retrouve le triangle où les deux sexes sont réunis et on trouve l'unité parfaite de l'androgyne.
Oui, j'aimerais revenir à cette première image dont nous parlions, parce que il y a plus que simplement deux images dans le cas particulier de sexe. Mais si je prends le clitoris lui-même, vous avez dit en macrophotographie, ça devient non seulement un objet, je veux dire une chose vue, mais quasiment un symbole.
Oui, d'autant plus que je l'ai imprimé dans ce triangle avec la pointe vers le haut, qui est en somme le triangle mâle, mais dans lequel se trouve déjà le sexe féminin. Donc il y a déjà cette première tendance de l'union entre mâle et femelle. En plus, il a... sur cette photo-ci quand même, la même forme que le lingam, le pénis, là, et que on sent dans l'image la volonté de s'unir, de se confondre l'un dans l'autre. Comme par exemple, une constante dans mes photos, c'est la notion de la mort aussi. Je crois que c'est très flamand en plus.
Oui, mais c'est présent dans l'androgyne, très clairement.
Déjà, oui. Dans Requiem, forcément, dans les autres photos que j'ai fait, que je vous ai montré, la transcendance, que j'ai appelé transcendance, les photos d'animaux qui sont gardés sur alcool et formol, et où j'ai capté ce moment ultime et transcendant entre la vie et la mort, et qui, ces animaux ont été figés dans cette dernière attitude, et c'est ça, je trouve assez fabuleux qu'on peut être témoin de ça. Toujours maintenant, et à travers mes photos aussi.
Mais je ne voudrais pas donner l'impression à nos auditeurs que vous êtes enfermé dans une vision noir.
Ou morbide. Hein,
ou morbide, n'est-ce pas? À vous voir, et comme on vous connaît quelque peu, c'est tout le contraire. Nous avons l'impression d'avoir affaire à un homme heureux.
Ben oui, j'aime bien vivre, bien rire, fêter. Parce que je trouve ça très important dans la vie, la fête, surtout avec des amis. Il en reste très peu des fois, mais il en reste toujours, et il faut y croire. Et alors la fête, c'est vraiment l'occasion de se retrouver, de se prouver qu'on s'aime. C'est un peu recréer le carnaval, recréer le chaos, et donc anéantir tous les limites existants, tous les tabous, tous les lois établies pour pouvoir recommencer à zéro, presque disons, pour recommencer une vie nouvelle, des moments nouveaux, créer des moments nouveaux.
Il vous arrive souvent de renaître?
Au long de sa vie, je crois que ça arrive à l'homme plusieurs fois. Mon père a dit un jour, on vieillit pas graduellement, on vieillit par secousse. Et je crois que c'est comme ça. Donc on reçoit des coups, mais on s'en remet et puis on renaît. C'est assez fabuleux. Moi, j'aime pas vivre uniformément, comme sur de l'eau très calme. J'aime bien les tempêtes. Un jour, un artiste m'a dit qu'en somme, très souvent, on se dénude devant les autres en montrant notre travail, mais que par ce fait même, on réalise très souvent les fantasmes des autres aussi, et qu'à travers nous, ils savent les vivre.